Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue au Conseil des finances publiques rattaché à la Cour des comptes. Dézingue comme jamais la stratégie macroéconomique et budgétaire de Bercy. Il s'agit du programme de stabilité qui a été présenté et approuvé en Conseil des ministres hier. Ça manque de sincérité, ça manque de cohérence. Les économies annoncées sont lacunaires. Les prévisions de croissance sont surévaluées. C'est le seul mot habituel, surévaluer. Les autres ne le sont pas. Et la préconisation du Haut Conseil est tout simplement de renoncer catégoriquement à toute baisse d'impôts en 2025. Il y en a deux dans les tuyaux. 2 milliards d'impôts en moins pour les classes moyennes et la poursuite de la suppression de la CVAE dans la catégorie des impôts de production. Qu'est-ce que c'est qu'un salaire décent ? En tout cas, Michelin promet un salaire décent à ses 132 000 salariés répartis dans 175 pays. Là où le patron de Michelin, Florent Ménégaud, va un peu plus loin, c'est qu'il déclare dans Le Parisien que le SMIC en France n'est pas décent. Bruno Le Maire veut réserver les aides à la rénovation pour les pompes à chaleur made in Europe. Ça, on le sait. Alors désormais, le protectionnisme s'habille en vert. Et puis, on a un exemple concret dans l'actualité. Une entreprise qui s'appelle Systovi, qui est l'un des derniers fabricants français de panneaux solaires, qui va être liquidé définitivement par le tribunal de commerce de Nantes aujourd'hui. Et l'entreprise dénonce la concurrence, même le dumping chinois, qui a conduit à cette situation. Alors, est-ce qu'il s'agit de protectionnisme ou est-ce qu'il faut donner aussi un peu de voix à ceux qui considèrent qu'il y en a marre de se faire avoir systématiquement par les autres, la Chine en tête. Et puis, nous sommes aux 100 jours de Gabriel Attal. Il sera sur BFM TV ce soir à 20h50. Il se trouve que c'est moi, Nico Dose, qui vais l'interroger sur les questions économiques. Alors, je vais demander un petit coup de main à mes invités et je leur poserai la question en fin d'émission. Quelles questions souhaiteriez-vous poser au Premier ministre, évidemment, sur le terrain économique ? Bonjour Christian de Boissieu.
Bonjour.
Bienvenue, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes qui est partenaire de cette émission chaque jeudi. Vous avez coécrit justement un livre de contribution, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui ou la mondialisation en question. On est en plein dans le sujet chez Laurent Duménil, éditeur. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. Vous avez publié La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez Ixo Éditions. Quand je lis, c'est marrant en voyant le Haut Conseil des finances publiques et que le fait que vous étiez là, je me suis dit, avoir confiance en l'avenir, c'est chaud là, quand on lit les conclusions du Haut Conseil. Bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Que je ne présente plus, mais il est professeur à l'ESCP, il a publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'écho, dont j'ai laissé le numéro sur mon bureau, comme souvent.
Oui, c'est sur l'Europe qui est quand même dans l'actualité, notamment au travers du Haut Conseil des finances publiques, qui est issu de l'Europe.
Comment vous réagissez ? Je vais commencer par vous, Christian de Boissieu. Ça fait encore plus longtemps que moi que vous suivez l'économie, les exercices budgétaires. J'ai jamais vu des... Alors, c'est un document de magistral au Conseil des finances publiques, donc tous les mots sont pesés. Manque de sincérité sur les comptes publics, surévaluation sur la croissance 2027, les fameuses économies annoncées à l'horizon 2024-2025 et les suivants sont lacunaires. La trajectoire de retour sur les 3%, manque de cohérence. Et les experts des finances à Bercy, dans ce type de situation, diraient que la trajectoire des finances de la France, c'est un oiseau qui ne vole pas. Je trouve que là, j'en parlerai à Gabriel Attal ce soir, mais j'aurais jamais osé utiliser des mots pareils.
Écoutez, d'abord, je trouve qu'il joue son rôle. C'est un organisme indépendant.
Plus près le micro.
Indépendant, alors qu'il rassemble quoi ? Des magistrats de la Cour des comptes et des experts.
Absolument.
Essentiellement des économistes qui sont nommés pour 5 ans. Par évocable, et je trouve qu'il remplit son rôle, parce que c'est pas la première fois que le Haut Conseil critique la trajectoire, mais comme vous le dites, c'est la première fois qu'il le fait avec autant de force. Deuxième remarque, alors il y a l'éternel débat sur les hypothèses de croissance. Bon, alors là, chacun y va de sa prévision. Il est clair que le gouvernement, en affichant une croissance de 1% pour cette année 2024, a une approche, j'allais dire, un peu normative. Bon, c'est un objectif. Le Fonds monétaire, dans les prévisions qui sont sorties il y a quelques jours, prévoit pour la France une croissance de 0,7. Donc pas 1%.
L'OFCE 0,5.
Bon, la Banque de France est à 0,8 ou 0,9. Donc oui, on est entre 0,7 et 1. Et là, j'ai entendu M. Cazenave, le ministre des Comptes publics, qui dit au fond, c'est de l'ordre de l'écart admissible compte tenu des erreurs de prévision. Peut-être, mais je veux dire, ça fait une partie de la différence. Parce que les écarts de croissance pour l'année prochaine 2025 sont moins nets. C'est-à-dire qu'on prévoit un peu partout une reprise compte tenu du fait que les taux d'intérêt vont finir par baisser. Je parle des taux d'intérêt de directeur de la Banque Centrale Européenne, que l'inflation a un peu baissé, ça redonne du pouvoir d'achat et que c'est bon pour la consommation, etc. Bon, alors, c'est le premier débat sur la trajectoire de croissance. Le deuxième débat sur la trajectoire des finances publiques, les deux sont liés. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le gouvernement fait quand même l'hypothèse d'une réduction importante entre cette année et l'année prochaine. C'est-à-dire que on a été à 5,5 de déficit public en 2023. Le gouvernement prévoit qu'on sera à 5,1 cette année, 4,1, c'est-à-dire un point de moins l'année prochaine. Puis ensuite, en 26, 3,6 pour arriver en 27.
À 2,9.
Voilà, l'année de la fin du quinquennat, du deuxième quinquennat Macron, à 2,9, c'est-à-dire en dessous de la limite de 3. Bon. Le saut du côté des déficits publics entre cette année et l'année prochaine, c'est un point de PIB. Et donc, là, l'hypothèse me paraît quand même relativement importante. Comment on s'y prend? Vous poserez, on y reviendra dans les questions à poser à M. Attal, mais je dirais, la question de savoir comment on réduit les dépenses publiques, ça me paraît, moi, la question centrale.
Mais est-ce que plus on va tenter de les réduire, plus les milliards seront chers à trouver, hein?
Et plus ça risque d'avoir un impact. Ouais. Alors, il y a un seuil à partir duquel...
C'est récessif.
Une politique budgétaire restrictive combinée avec une politique monétaire qui va certes être un peu moins restrictive, un peu expansive, mais lentement. La BCE n'a pas baissé la garde très rapidement. Tout ça, ça va avoir un impact sur la croissance. Et c'est là où, je termine là-dessus, le Haut Conseil pose la question de la cohérence.
Oui.
Entre la politique budgétaire suivie, les hypothèses de croissance, etc.
Et c'est très clair, hein. Soit on tient parole et il faut trouver 65 milliards d'euros d'économies et de dépenses à compter d'aujourd'hui jusqu'à 2027, dit le Haut Conseil, soit on ne tient pas parole. Voilà. Ça vous inspire quoi, Nicolas Bouzou, cette... nous tous, ça fait longtemps qu'on observe la vie économique. J'ai jamais vu au mois d'avril 20 milliards sortir du chapeau comme ça d'économies soudaines, en prenant soin en plus d'éviter la loi de finances rectificative pour contourner le Parlement, avec une espèce de sentiment d'urgence et d'impréparation totale, ce que d'ailleurs dit aussi le Haut Conseil des Finances Publiques. Il y a un côté, situation plus périlleuse que d'habitude, je ne sais pas comment l'interpréter, quel est votre avis?
Je pense surtout que ce qui a fâché beaucoup de gens, et notamment le Conseil des Finances Publiques, à fort juste titre, on en a déjà parlé, mais c'est pas tant le déficit que le fait que le déficit avait déjà commencé à déraper très fortement à la fin de l'année 2023, et que finalement ça n'a pas été pris en compte dans les hypothèses de 2024, et c'est là d'où vient cette notion d'insincérité. Et en fait, c'est d'autant plus étonnant que les observateurs, au fond, certains l'avaient dit, le déficit de l'État, c'est très facile à suivre puisque Bercy publie des situations budgétaires de l'État tous les mois qui sont publiées sur le site de Bercy, donc c'est très facile à voir en réalité.
De l'État, on entend bien l'État.
Oui, mais enfin, les collectivités locales, elles n'ont pas de déficit parce que c'est interdit, donc c'est pas le sujet. Quant à la Sécurité sociale, elle a un déficit, mais en réalité une grosse partie des difficultés financières de la Sécurité sociale sont prises en charge par l'État, parce que beaucoup de choses, des exonérations de charges sont compensées, etc. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut regarder si on veut vraiment avoir la vision la plus précise des choses, en réalité, c'est le déficit de l'État. Et donc, quand on regardait ça en 2023, on a bien vu novembre, décembre 2023, qu'il y avait un dérapage très important. D'ailleurs, je voudrais rappeler qu'au fond, on était en matière de déficit, en fin d'année 2023, à peu près sur les niveaux à quelques milliards près de 2020, qui était l'année du quoi qu'il en coûte. Donc, on voit que, en fait...
C'est très frappant d'ailleurs, qu'on en soit encore à ces niveaux-là, tandis qu'on a débranché des dispositifs.
Et ce qui est très agaçant, pour le coup, c'est qu'en effet, ça n'a pas été analysé pour faire le budget 2024 et ça n'a pas été pris en compte dans le budget 2024. Donc pour le coup, cette notion d'insincérité, si vous voulez, elle est quand même justifiée. Voilà. Il y a vraiment un problème dans la conception du budget 2024. Après, sur les baisses de dépenses, bon déjà... grosso modo, hein, sur la moitié des baisses de dépenses qui ont été annoncées, vous avez une moitié, c'est pas vraiment des baisses de dépenses.
C'est déjà
des artifices comptables. C'est-à-dire que vous avez des réserves dans les ministères pour parer à l'urgence, etc. Vous réduisez ça. Donc, en fait, ça fait une baisse de dépenses au niveau comptable, mais du point de vue du cash, pour parler dans le langage d'entreprise, ça ne change absolument rien. Vous avez aussi beaucoup de reports de projets immobiliers, d'embauches, etc. Donc, on reporte quand même en grande partie l'effort sur 2025. Mais en même temps, c'est un peu normal, puisque cette stratégie du rabot, ça fait très longtemps qu'on la mène. D'ailleurs, à chaque fois qu'on la mène, on dit c'est la dernière fois.
Oui.
Et puis, on continue.
Promis, sauf demain, j'arrête de boire.
Il n'y a plus grand-chose à faire. Et là encore, les gens qui nous écoutent, qui pour beaucoup sont des responsables d'entreprise, voient bien que si dans une entreprise, on vous dit année après année, réduisez les dépenses, réduisez les coûts, mais on ne touche absolument à rien aux structures. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout la main sur les ressources humaines, vous n'avez pas du tout la main sur l'organisation, vous n'avez quasiment pas la main sur les investissements. Ben, en réalité, vous arrivez très rapidement à une limite où vous ne pouvez plus réduire grand-chose. Et en fait, j'irais même un peu plus loin. Moi, mon idée, c'est qu'en fait, si on veut réduire les déficits durablement, il faut les augmenter un peu. Comme quand on fait une restructuration dans une entreprise, au fond, ça coûte toujours un petit peu d'argent au début. Si vous voulez faire de grosses économies, par exemple, à l'hôpital aujourd'hui, l'hôpital qui est vraiment organisé absolument n'importe comment, ça coûte très cher. J'étais l'autre jour, faisais une conférence avec le CHU de Lille, il m'expliquait qu'ils étaient encore au fax, vous voyez. Bon, voilà. Donc, les faire passer à l'email et à l'intelligence artificielle, je suis sûr que c'est quelque chose qui est très bon à l'horizon de 2 ou 3 ans.
Mais il faut payer d'abord.
Ça coûte forcément un petit peu d'argent.
Il faut payer pour réformer en récolte.
Et donc, en fait, une trajectoire crédible, en fait, des finances publiques, ce serait pas une trajectoire qui dirait, là, on va faire 20 milliards d'économies, là, tout de suite, parce qu'en fait...
C'est ce qu'on fait.
C'est ce qu'on fait, mais en fait, on sait bien qu'on peut pas, et donc on est obligé de passer par les artifices dont j'ai parlé. Une trajectoire crédible des finances publiques serait de dire, bah, regardez, on met un certain nombre de choses sur la table, on regarde, la fin du statut de la fonction publique, par exemple, ça, je pense que c'est un bon sujet. Mais on en est là. Donc, moi, je pense que c'est un bon sujet. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va faire en 3 semaines. Et sans doute, ça coûte un peu d'argent au début.
Parce que là, les 20 milliards, on les met en urgence. Mais on annonce déjà qu'on en a 20 supplémentaires en 2024. Chaque fois que vous allez en avoir des supplémentaires, il y a un moment, le gel du crédit de réserve, ça touche ses limites. En plus, je vous rappelle que la LOLF permet, en théorie, par décret, d'agir sur 11 ou 12 milliards max. Alors là, on a filouté avec l'histoire d'aller gonfler les rentes inframarginales qu'on va taxer chez les producteurs d'énergie. Tordre le cou des collectivités locales pour leur demander 2 milliards et demi, pour surtout ne pas passer devant les parlementaires. 65 milliards d'ici 2027, Jean-Marc Daniel.
Oui.
Est-ce que là, on se paye de mots? Et puis surtout, la question suivante, est-ce qu'il faut vraiment totalement enterrer toute baisse d'impôts dès 2025?
Alors, je vais réagir un peu à toute la conversation.
Oui, voilà.
Moi, il y a 3 mots que je mettrai en avant, c'est Hippolyte, Théodule, Gustave. C'est quoi? C'est le nom que mettait en avant le général de Gaulle pour qualifier les comités qui servent à rien. Donc je pense que le Conseil des Finances Publiques est un comité Théodule, Gustave ou Hippolyte. Ça ne sert à rien, contrairement à ce que vous dites, ça n'existe pas depuis très longtemps. Donc
non,
on n'a pas de référence historique.
10 ans, ça fait 10 ans qu'il est.
En disant, c'est la première fois, il n'y a pas d'histoire de ce truc. Et en plus, ce truc...
J'ai pas dit que ça avait du pouvoir. Hein.
Non,
c'est consultatif.
Ça n'a aucun pouvoir. Le mot insincérité n'est pas du tout ce qu'on raconte. Insincérité, c'est un terme juridique très précis.
Très précis.
Et ça ne veut pas dire que les hypothèses de croissance ne sont pas les bonnes. Ça, la sincérité, c'est de mentir sur les dépenses et de ne pas inscrire dans le budget les dépenses qui correspondent à, par exemple, de ne pas inscrire la masse salariale qui devrait être inscrite. En revanche, sur les hypothèses de croissance économique, il n'y a pas d'insincérité.
Non, là, c'est jugé surévalué.
C'est surévalué, c'est pas sincère, on n'en sait rien. Et le gouvernement a raison de dire, écoutez, vous nous aviez annoncé qu'on ne ferait pas 1% de croissance en 2023, on a fait 1% de croissance. Donc, qu'est-ce que vous permettez de dire qu'on est insincère? Donc, insincérité, ça n'est pas du tout le mot adapté.
Dans le rapport, c'est pas.
Oui,
j'entends bien.
Mais, et il n'y a pas d'insincérité. Les dépenses qui sont inscrites, je maintiens, sont calibrées pour financer effectivement les services publics tels qu'ils fonctionnent à l'heure actuelle. Donc le véritable problème, c'est pas ça. Et je maintiens, le véritable problème, c'est quelle est la pertinence de ce que raconte ce comité. Elle est nulle, cette pertinence. Alors, je pense que la vraie question.
Vous êtes content au Conseil. Allez-y, continuez.
Écoutez, tous les gens qui sont dans les comités Théodule et tout ça, ils savent la réalité de ce qui.
Bon. Allez-y,
donc,
Jean-Marc.
Concrètement, effectivement, il y a un problème de redressement de la situation des finances publiques avec une question de la part d'un gouvernement qui, quand il a été mis en place, je rappelle quand même le discours de politique générale d'Édouard Philippe, je rappelle que M. Le Maire était déjà là et que M. Le Maire avait déjà annoncé qu'il ferait 60 milliards d'économies pendant les 60 milliards d'économies étaient programmés, annoncés en 2017. Donc ils ne sont pas là, ils n'ont pas été réalisés. Et donc je pense qu'effectivement, par rapport à cette situation, il y a trois éléments à constater. D'abord aussi, ça concerne essentiellement l'État, le déficit, mais toutes les finances publiques sont dans une situation calamiteuse. La sécurité sociale continue à être en déficit. Je rappelle qu'au moment du débat sur les retraites, le premier débat, celui juste avant la Covid, les gens qui disaient il n'y a pas besoin de supprimer le système tel qu'il est, il n'y a pas besoin de réformer le système tel qu'il est, parce qu'en 2024, la dette sociale aura disparu et on pourra utiliser la CRDS pour financer la retraite.
Oui, je me souviens, oui.
En 2024...
Il n'y a que ceux qui disaient ça qui y croyaient, mais bon...
Mais tout le monde disait, il s'appuyait sur les documents officiels. Je ne sais pas qui le croyait, mais il s'appuyait sur les documents officiels. Donc je pense que les collectivités locales, dont on dit qu'elles sont à l'équilibre, ne sont pas à l'équilibre. Je rappelle que le département de l'Aisne refuse de voter son budget, le département de la Loire-Atlantique va être mis sous tutelle du préfet, parce que leurs recettes ont considérablement diminué, alors que leurs dépenses augmentent, et ils sont dans l'incapacité d'honorer leurs engagements, puisque leurs recettes, c'est lié au marché immobilier qui est en train de baisser, de s'effondrer.
Bien sûr.
Et leurs dépenses, c'est des dépenses sociales qui, elles, continuent. Donc, le problème est général. Il ne concerne pas que l'État. Il y a une vraie réflexion à avoir. La deuxième remarque que je ferais, c'est qu'effectivement, il faut raisonner en structurel et pas en conjoncturel.
C'est Nicolas.
Ah oui. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'il y ait une baisse des recettes en ce moment, c'est le véritable enjeu. Là aussi, je renvoie au papier d'Olivier Blanchard, qui dit bien que le problème, c'est un problème de déficit structurel, et qu'il faut accepter un déficit conjoncturel. C'est-à-dire, il faut accepter que les stabilisateurs automatiques fonctionnent dans les situations où il y a un ralentissement de croissance. Donc, il faut identifier les vrais problèmes structurels.
C'est plus de boulot, c'est moins visible tout de suite.
Oui, mais ça, c'est le travail du ministre des Finances.
Oui.
Encore une fois, d'un ministre des Finances qui a été élu sur un programme de 60 milliards d'économies. Donc, je pense qu'il faut, et donc, effectivement, poser le problème du statut de la fonction publique, ce genre de choses, d'une commission de l'AH, de supprimer 50 000 emplois. On avait annoncé en 2017 qu'on supprimerait 120 000 emplois, donc faire les 120 000 emplois. Le troisième élément que je mettrais en avant, c'est le fait que la facilité qui consiste à augmenter les impôts est une facilité qui est, à mon avis, qui n'a aucun sens économique, parce que toute augmentation d'impôts, c'est une diminution de la dépense privée. C'est-à-dire, une augmentation d'impôts, c'est un arbitrage entre baisse de la dépense publique et baisse de la dépense privée. Et donc, ce n'est pas un problème de faire payer les riches, c'est un problème de savoir est-ce que la dépense privée, dans la circonstance actuelle, est plus ou moins efficace pour la croissance que la dépense publique. Et je crois que c'est le cas. Et donc, je pense qu'il faut afficher qu'on n'augmentera pas les impôts, non pas pour des raisons de promesses électorales, pour des raisons de satisfaction, pour des raisons politiques, mais pour des raisons d'efficacité économique.
Votre avis, justement, sur les impôts. Alors, je ne sais pas si c'est un comité Théodule totalement inutile, mais enfin, il existe depuis 10 ans, le Haut Conseil des Finances Publiques.
Gustave et Hippolyte.
Mais justement, la recommandation, c'est on arrête tout de suite les promesses de baisse d'impôts dès 2025.
Est-ce que je peux d'abord défendre un tout petit peu...
Vous pouvez défendre...
Certains comités, je n'ai jamais fait partie du Haut Conseil des Finances Publiques, j'ai été dans d'autres comités Théodule.
J'ai beaucoup d'invités qui viennent ici qui en ont fait partie.
Mais ceci dit... Pour moi, pour avoir présidé le Conseil d'analyse économique pendant 8 ans, je ne mettrai pas dans les comités Théodule. Bon, je trouve que au Conseil des finances publiques, il est dans son rôle. Il ne coûte pas très cher. À ma connaissance, je n'ai pas été membre, mais à ma connaissance, les membres ne sont pas rémunérés.
Non, ils sont pas, je peux vous le dire. On ne leur paye même pas le taxi quand ça termine en pleine nuit.
Ça alimente le débat. Et on n'a pas été au bout. Et c'est là où je rejoins Jean-Marc en négatif, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas été sur le modèle américain du Congressional Budget Office, le CBO, qui a beau être dépendre du Congrès.
Qui dépend du Congrès. La démocratie, c'est de faire dépendre les problèmes budgétaires du Parlement, du Congrès.
Non, mais c'est ce que je suis en train de dire.
Oui.
C'est qu'il a beau dépendre du Parlement, il est scientifiquement indépendant.
Absolument.
Pour avoir suivi les travaux du CBO quand j'étais aux États-Unis, je peux vous dire que là, le Haut Conseil est un peu le derrière entre deux chaises, si je puis dire. Bon, voilà. Deuxièmement, sur le déficit structurel, je crois qu'on est tous les trois d'accord pour dire que il faut distinguer ce qui relève de la conjoncture et ce qui relève des décisions de politique publique.
Bon, et du climat du moment.
Et d'ailleurs, dans dans la réforme du pacte de stabilité au niveau européen, réforme qui est incompréhensible, j'ai eu l'occasion de le dire, trop complexe.
On l'avait détaillé ici.
Trop complexe. On a maintenu quand même la référence au déficit structurel qui était déjà dans la première mouture de ce pacte. Et, ceci dit, parenthèse, pour avoir aussi travaillé sur le calcul du déficit structurel, les travaux de l'OCDE, les travaux des instituts de conjoncture, c'est utile. Ça pose aussi des questions de calcul, hein, on est bien d'accord. Mmh. Ça n'est pas. Alors, je reviens sur votre question sur les impôts. Moi, je pense que pour prendre l'exemple, par exemple, des impôts de production, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, l'État, que je sache, a pris des engagements de baisse des impôts de production.
Ah, oui.
Bon, alors il a commencé à les réduire de 10 milliards, etc. Et on nous a dit, du côté de Monsieur le maire de Bercy, qu'on allait continuer à baisser les impôts de production. Alors, en plus, je veux dire... pour rejoindre l'articulation entre la politique budgétaire et fiscale et la conjoncture, baisser certains impôts comme celui-là, ça peut avoir un effet bénéfique sur la croissance.
Alors, déjà, ça montera l'impôt sur les sociétés.
Bon, il y a des délais d'action, certes, il y a des délais d'action, mais ça peut relativement jouer. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas partir de l'idée, pas de baisse ou pas de hausse. Moi, je suis plus pragmatique que ça, moi.
Juste pour finir, alors, oui, Jean-Marc, et puis un mot sur les impôts avec Nicolas, on passera.
Oui, sur les impôts de production, je rappelle quand même que à la réunion d'été de rentrée là du MEDEF,
on a parlé que de la CVAE.
On a parlé que de la CVAE.
C'était les quatre lettres
du jour.
Notre
ministre a fait une déclaration absolument invraisemblable en disant, il a dit l'opération a commencé et le bilan que je peux faire du début de l'opération, c'est que c'est extrêmement positif parce qu'il y a eu plus de croissance et finalement la baisse d'impôts a été compensée par de nouvelles rentrées fiscales. Et donc, on pouvait penser qu'à partir du moment où ça donne plus d'impôts à la fin, il faudrait prolonger l'opération. Et il dit, mais je n'ai pas les moyens de continuer. Enfin, il y a une espèce de contradiction dans la façon de présenter les choses. Il montre qu'il n'y a aucune ossature intellectuelle derrière la démarche autour de ces impôts. Et donc, je pense que la vraie enjeu, c'est effectivement de réfléchir à la fiscalité, non plus en termes, il faut punir les riches, mais en termes d'efficacité de la dépense privée, en termes d'efficacité du prélèvement fiscal, la façon dont le prélèvement fiscal est mené.
Juste pour terminer, Nicolas...
Comparaison de la dépense privée à la dépense publique.
Nicolas Bouzou, par rapport à cette injonction de la Cour des comptes, on arrête toute baisse d'impôts.
Alors, sur la baisse de l'impôt sur le revenu, les 2 milliards, ça, je suis complètement opposé à cette baisse d'impôts, parce que...
Opposé au fait qu'on les baisse.
Depuis le début, oui, parce qu'en réalité, tout dépend ce que vous appelez les classes moyennes. Le Premier ministre avait parlé de classes moyennes, mais classes moyennes, si vous...
Oui, ça fera 60 euros par ménage, quoi.
Voilà, donc c'est un coût budgétaire quand même significatif pour un gain en matière de pouvoir d'achat qui n'est pas très important. En revanche, sur les impôts de production, pour les raisons qui ont été évoquées, je pense qu'il faut continuer cette baisse parce que je suis très attaché quand même à la crédibilité de la politique économique, qui est un énorme problème dans notre pays. Donc je pense que quand il y a des engagements, il faut s'y tenir. Puis en plus, franchement, si on a un impôt dont les effets positifs sont plutôt bien documenté, c'est vraiment ces impôts de production. Et je rappelle juste
La
suppression est bien documentée, oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, l'allègement, la suppression est bien documentée. Et je renvoie aux travaux toujours remarquables de François Eckhall, hein, qui montre que, en fait, si on regarde les prélèvements obligatoires, ce qu'il appelle les prélèvements obligatoires nets sur les entreprises, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires, y compris les impôts de production, moins toutes les aides, en fait, ces prélèvements nets sont très supérieurs à ce qu'on a en Allemagne, en Italie et en Espagne, donc les trois autres plus grosses économies de la zone euro. Donc on est encore à des niveaux de prélèvements obligatoires sur les entreprises nettes des aides qui sont très lourds.
Qu'est-ce qu'un salaire décent ? Alors c'est Michelin qui met les pieds dans le plat, qui a lancé en fait ce chantier en 2020, constatant qu'il avait à peu près 5% de ses salariés en dessous de ce que cette entreprise-là appelle un salaire décent. Je vous donnerai les chiffres. Par exemple, à Paris, c'est 2 fois le SMIC, un salaire décent, d'après le patron de Michelin. Et donc, ils ont décidé que les 132 000 salariés dans 175 pays auraient désormais forcément un salaire décent. Aucun salarié de Michelin n'est payé au SMIC aujourd'hui. Et ils promettent aussi un socle de protection sociale à l'ensemble de leurs salariés. On en parle dans un instant, à tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Christian Deboissieu, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès, auteur de La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez XO Éditions. On en avait parlé la fois dernière avec Nicolas. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'écho avec l'Europe à la une du numéro du mois d'avril. Alors j'ai commencé à avoir le débat sur le salaire décent avec Jean-Marc Daniel à 7h10 dans la matinale de Laure Clausier sur BFM Business. Je vous donne juste les éléments. C'est donc une annonce de Michelin, mais qui en fait c'est la fin d'un processus qu'ils ont entamé en 2020 et ils ont défini ce qu'était un salaire décent façon Michelin. Donc façon Michelin, un salaire décent, c'est pour une famille de 4, c'est deux fois le SMIC quand on est à Paris. C'est 2 110 € par mois quand on est à Clermont-Ferrand, la ville du siège. Brut, hein. Sachant que le SMIC brut, c'est 1767. C'est 573 € par mois au Brésil, ou c'est 317 € par mois en Chine, si on travaille pour Michelin. C'est très clair, c'est ça, le salaire décent pour une famille de 4. Avec cet argent, qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? Il faut payer l'élémentaire. Donc, il faut que je me loge, il faut que je nourrisse ma famille, que je la transporte, que je l'éduque et que je la soigne. Il faut que je puisse mettre un peu d'argent de côté tous les mois. Il faut que je puisse acquérir quand même des biens de consommation, comme une voiture, alors pas tous les mois, bien sûr, et puis me payer un minimum de loisirs et de vacances. Voilà, c'était ça la définition du salaire décent, Jean-Marc.
Oui, non, mais derrière tout ça, il n'y a absolument aucune quantification. C'est même très dangereux que Michelin dise, voilà, vous avez droit dans votre vie à un appartement de telle surface.
Ah non, ils n'ont pas donné de surface.
Mais si, se loger, ils disent...
Famille de 4, se loger, on imagine au moins une chambre par enfant.
Oui, voilà, mais une chambre de quelle surface et tout ça.
Donc, une chambre qui va faire 9 mètres carrés, 10 mètres carrés.
Je pense que depuis l'Union soviétique, personne n'a raisonné en disant, vous allez avoir droit à tant de mètres carrés dans votre chambre. Enfin, c'est absolument aberrant.
Et donc, une chambre, je remarque, ça peut pas faire 3,50 m, ça fait pas forcément 25. Voilà.
Combien ça fait? Donc, de quel droit un patron d'entreprise décide de comment doivent se loger leurs salariés? Je trouve ça totalement aberrant. D'autant plus que sur le plat, donc je pense que il y a aucune définition de ce qu'est le niveau de vie des gens. Et donc, je vais prendre deux exemples, enfin deux considérations que j'ai déjà développées donc dans la matinale. Premier élément, le salaire. Il y a des règles économiques pour déterminer le salaire. Et ces règles économiques, c'est productivité marginale du salarié, donc correspondant à son salarié.
Là, c'est indiscutable.
Et dans le rapport entre l'entreprise, c'est la loi de l'offre et la demande. Je rappelle, puisque chez Michelin, on est très catholique, très chrétien, je rappelle que dans la somme théologique de saint Thomas, il y a le juste prix. Et le juste prix est issu de la justice commutative. C'est par l'échange qu'on trouve le bon prix. Saint Thomas explique bien que le bon salaire, c'est celui qui ressort d'une négociation entre le salarié et le salarié, le fournisseur, puisqu'à l'époque il y avait assez peu de salariés, et l'employeur, le client.
Michelin est à côté de la plaque.
La deuxième considération que je mettrai en avant, c'est un autre penseur chrétien, qui est Jean Fourastier, qui, dans les Trente Glorieuses, ce livre dont tout le monde parle mais que personne ne lit, donc Jean Fourastier raconte, il compare deux villages dont le style de vie a complètement évolué, et donc il compare un village où il y a encore des chevaux, tout ça, puis un village où il y a des tracteurs, des télévisions, des voitures et tout ça. Il dit que c'est le même village à 30 ans de distance. Mais simplement, quand vous demandez aux gens de ce village de combien ils ont besoin pour vivre dignement, puisqu'à l'époque on parle en français, donc on n'emploie pas décemment mais dignement, ils répondent, j'ai besoin d'une augmentation de 30% de mon revenu. Et puis dans le deuxième village, 30 ans après, avec les tracteurs, les automobiles, la télévision, on leur demande, de combien vous avez besoin pour vivre dignement? Ils disent, j'ai besoin d'une augmentation de 30% de mon revenu. Parce que entre-temps, et Fourassier explique que la perception qu'on a de ses besoins, c'est une perception objective, mais c'est aussi une perception relative et subjective. Il dit, on regarde ce dont les autres disposent, et on dit, puisque les autres le possèdent, j'ai le droit de l'avoir. Et donc, Fourastier dit, il est absolument impossible de savoir quel est le revenu minimum, le revenu digne que tout habitant de ce pays peut espérer.
Même pas un minimum d'intuition.
Non.
Bon, d'accord. Bon, on va passer la parole. Christian Deboissieu.
Je vais continuer sur
le... Vous avez le droit d'être totalement en opposition avec des gens.
Ça m'arrive, hein. Je veux dire, j'ai pas peur.
Mais c'est Nicolas Bouzou qui l'a dit, il faut pas avoir peur.
Mais surtout que je suis en totale opposition.
Ah bon, c'est parfait. Alors, allez-y, Christian, allez-y.
Je continue sur la filière religieuse ouverte par Jean-Marc, j'ai envie de dire bien heureux les salariés de Michelin.
C'est... Oui, j'ai envie de dire ça aussi. Oui.
Bien heureux parce que ça veut dire quoi ? Deux fois le SMIC, c'est le salaire moyen en France. J'ai vérifié les chiffres. Vous avez le salaire moyen qui fait deux fois le SMIC à peu près, et le salaire médian qui est le SMIC, le SMIC augmenté de 50%. Voilà les ordres de grandeur. Donc, je veux dire, l'expérience de Michelin, c'est pour ça que j'y ai tant mieux pour ceux qui y travaillent, elle n'est pas généralisable.
C'est ça.
Et parce que on va pas doubler le SMIC en France. Le SMIC a suivi l'évolution. Heureusement, il a été protégé de l'inflation par la formule que vous connaissez bien. Voilà. En même temps, on n'a pas été au-delà. Il n'y a pas eu de coup de pouce véritable et significatif.
Aucun, il y a eu la formule.
Parce qu'on sait en économie que si on augmente trop le SMIC, ça détruit des emplois. Et ça se retourne finalement contre les intéressés, si je puis dire. Donc, ce débat, effectivement, tout ça est très subjectif.
On est d'accord sur la subjectivité. On n'est pas dans la science économique.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que derrière ça, il y a une question qui est posée sur comment on lutte contre la pauvreté dans un pays comme la France. Mais je veux dire, à mon avis, la voie Michelin, je répète, elle n'est pas généralisable. Et je trouve ça assez dangereux. Je veux dire, vous faites voter les gens, effectivement, ils sont pour. Mais ils sont aussi contre les destructions d'emplois, donc il faut être cohérent. Et je répète, il faut raison garder. Le salaire minimum, c'est important de l'avoir, de le conserver, de l'indexer sur l'inflation, comme le veut la formule. Il ne faut pas trop jouer là-dessus.
J'ai trouvé d'ailleurs que la déclaration de Florent Ménégaud dans les colonnes du Parisien, indiquant que le SMIC n'est pas un salaire décent, là, ça sortait un peu de l'effet d'annonce sur le salaire décent made by Michelin. Parce qu'effectivement, bienheureux celui... C'est pareil, regardez sur l'histoire des protections universelles. Bon, ils veulent accorder des congés pour les papas, payés à 100%, jusqu'à 4 semaines. Il y a des boîtes comme Sanofi hein, qui vont jusqu'à 10 semaines ou 14 semaines. Donc bienheureux, effectivement, celui qui est un salarié d'une grande entreprise multinationale, riche, au sein du CAC 40. Votre avis là-dessus, Nicolas Bouzou?
Ben justement, je suis globalement pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense déjà que Michelin parle pour les salariés de Michelin. C'est-à-dire que
il veut pas donner de leçons d'ailleurs le PDG.
Voilà, c'est-à-dire qu'il considère que quand on est salarié de Michelin, il est légitime de s'attendre à un salaire qui soit ce qui est défini comme un salaire décent. Mais alors, j'aime pas faire ça, mais quand même un tout petit souvenir, parce qu'il se trouve que je dirige une entreprise de conseil avec 7-8 salariés qui travaillent pour une quarantaine d'entreprises. Et je me souviens très bien que la période du Covid, c'était très intéressant pour nous. Parce qu'au fond, il y avait, si je schématise, deux types d'entreprises. Il y avait les entreprises qui nous disaient on arrête tout, et puis les factures, on les paiera plus tard, etc. Et puis vous avez des entreprises, et ça a été le cas d'entreprises comme LVMH ou Michelin, qui appelaient en disant on va vous faire encore plus travailler, en fait, parce que c'est très important pour les entreprises comme nous de protéger notre écosystème. Donc, de toute façon, les choses se passent bien, on va sortir de la pandémie, etc. Vous voyez, donc, je pense qu'il y a quand même des entreprises qui ont ce souci de faire attention à leur écosystème, qui ont ce souci d'attirer les meilleurs salariés, de les fidéliser. Et ce que je comprends de cette stratégie de communication de Michelin, c'est qu'elle va plutôt dans ce sens-là, parce qu'on est dans des secteurs, en plus, où aujourd'hui, vous avez une vraie compétition pour le recrutement, et donc j'imagine qu'il y a aussi cette arrière-pensée-là qui est de dire, mais regardez Michelin, venez travailler chez Michelin, c'est une entreprise qui vous propose de bons salaires, qui développe des protections à un moment où où il y a quand même des questions sur l'État-providence. Même le ministre de l'économie a expliqué que finalement, on arrivait à la fin de l'État-providence et qu'il fallait passer à quelque chose d'autre.
L'État-protecteur.
Enfin, en tout cas, on voit bien qu'il y a de l'anxiété par rapport à ça. Et donc, qu'il y ait des entreprises comme Michelin qui essaient d'avoir un diagnostic et de faire une proposition par rapport à ça, enfin, je trouve ça très bien, voilà. Et les gens peuvent. Et en plus, Michelin, c'est une entreprise intéressante pour la France parce que c'est l'une des rares entreprises, très grandes entreprises, qui n'a pas son siège social à Paris.
Amsterdam.
Souvent les très bons salaires dans les grandes entreprises sont dans les sièges sociaux. Voilà. Là, c'est à Clermont-Ferrand, qui est en plus un coin qui a souffert aussi de la désindustrialisation. Je trouve que tout ça est très intéressant et très légitime, et qu'il y ait des entreprises comme Michelin, voilà, qui portent très bien.
Mais alors, si je peux rebondir.
De là jusqu'à dire que le SMIC n'est pas décent.
Oui.
Bon, je trouve que là. Bon, alors,
question non, de non. Mais Nicolas dit à sa façon ce que nous avons dit, c'est-à-dire ça n'est pas généralisable.
Oui, oui, ça, on est d'accord, mais...
On est d'accord là-dessus. D'autant plus, je reviens sur l'argument qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marc, il y a quand même, il doit y avoir une connexion entre, j'allais dire, les performances et le salaire, à travers la notion de productivité, et que les productivités sont très différentes, l'efficacité est très différente d'une entreprise à l'autre. Donc c'est aussi sous cet angle-là que ça n'est pas généralisable. Alors, si ça veut dire que Michelin doit montrer la voie, c'est un peu comme ça que j'interprète ce que vous venez de dire, Nicolas. Vous devrez montrer la voie aux autres. Mais, je veux dire, ça pose quand même... Je trouve que c'est une manière aussi de, j'allais dire, de ridiculiser un peu le SMIC à sa façon. En disant, au fond, le SMIC doit plus être la référence en France.
Il n'est surtout pas décent, dit le PDG. Bon,
c'est plus la référence. Alors que, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui sont au SMIC, qui sont proches du SMIC.
17% des actifs, là.
À travers les trappes à bas salaire. Donc, moi, un peu plus de respect aussi. Enfin, il y a deux manières d'interpréter ça. En disant, il faut tirer tout le monde vers le haut, ou autre manière sur laquelle j'insiste, il faut aussi respecter ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus.
Allez, j'avance parce que je veux absolument que vous me donniez des questions pour Gabriel Attal. Si je vous demande si c'est un problème que Systovi, l'un des derniers fabricants de panneaux solaires en France, soit liquidé aujourd'hui par le tribunal de commerce de Nantes, une entreprise qui dit qu'elle en est arrivée là à cause de la concurrence chinoise, et elle ajoute « dumping ». Voilà. Si je vous dis que Bruno Le Maire, à l'instar de ce qui a été fait pour les voitures électriques, décide que on va verser des aides publiques, pour mettre des pompes à chaleur, mais c'est des pompes à chaleur qui sont faites en Europe ou en France. Hein. On a marre de donner des sous à des produits qui viennent de Chine. Est-ce que vous... Nicolas, Bouzou, c'est du protectionnisme à l'état pur. Biden a annoncé qu'il voulait tripler les droits de douane sur l'acier chinois hier. Hein. Est-ce que c'est du protectionnisme ou est-ce qu'il y a un moment, stop? Il y a des voix qui défendent.
Mais moi je les comprends et je les défends, même si ça m'oblige à penser un petit peu contre moi-même d'une certaine façon. Mais
vous connaissant, je vois ce que
non,
vous
mais en fait, non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vois les choses de façon extrêmement concrète. Alors, je peux pas citer de marque, mais pour des raisons juridiques, mais on pense quand même que certaines entreprises chinoises, notamment dans le secteur du commerce aujourd'hui, arrivent en Europe avec des prix incroyablement bas, avec des pertes difficilement quantifiables,
c'est-à-dire des pertes annuelles, de marché, quitte à vendre à perte.
Des pertes annuelles qui se compteraient en dizaines de milliards d'euros ou de dollars, avec, en bout de chaîne, l'État chinois. Voilà. Donc, il y a quand même un sujet, parce que si la stratégie de la Chine, c'est de recapitaliser des boîtes à hauteur de 10, 20, 30, 40 milliards d'euros par an, pour mener des stratégies de prédation sur le marché européen, faire en sorte que on ait des défaillances chez des gros acteurs dans l'industrie ou dans les services, et pour ensuite récupérer leur mise par des positions qui seront des positions oligopolistiques, il me semble mais complètement logique. En tout cas, si j'étais aux affaires, que ce soit en Europe ou en France, évidemment, j'essaierais de faire quelque chose.
Pas de naïveté européenne. Pas de naïveté.
Christian de Boissieu.
On a en face de nous des pays, des zones qui ne sont pas naïves. Les Américains, les Chinois. Je trouve que l'Europe, qui a du mal à s'entendre, même, on va le voir dans le sommet européen qui se termine ce soir, on a du mal à s'entendre sur les sujets importants, malgré les rapports... On va voir comment vont être reçus les rapports, l'État...
Enrico Letta, qui a remis son rapport de rebond
de Mario Draghi sur la compétitivité. Mais moi, je souhaite qu'il y ait une réaction. Et pas de naïveté européenne. On a abandonné une certaine naïveté en matière monétaire. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait abandonné en matière réglementaire. On ne l'a pas abandonné en matière de politique de la concurrence au niveau européen. Arrêtons cette naïveté européenne. On se fait tondre la laine sur le dos, si je puis dire.
Bon, eh bien, écoutez, cette voix, oui, bien sûr. Vous imaginez, je ne vais pas quand même vous laisser
réagir,
Jean-Marc. Je ne vais pas vous laisser en jachère sur un tel sujet.
Je ne comprends pas comment le pays, la zone qui dégage le plus d'excédents extérieurs, est naïve. Je ne comprends pas pourquoi l'Europe est naïve alors que le déficit qu'elle avait vis-à-vis de la Chine était de 400 milliards en 2022 et aura été de 290 milliards en 2023 et il est encore en train de se réduire. Quant au fait que la Chine subventionne effectivement les panneaux solaires, les subventions de la Chine aux panneaux solaires, c'est je les empoche en tant que consommateur. En revanche, les subventions de Monsieur Le Maire à l'entreprise de panneaux solaires de...
Celle-là, c'est fini.
C'est moi qui les paie, ces subventions-là. Le secours qu'apporte Monsieur Le Maire... Il le fait avec mon argent. Alors que les panneaux solaires chinois, ça me donne du pouvoir d'achat. Alors je vois pas ce qu'il y a de naïf à être une zone qui dégage des excédents extérieurs et qui empoche le pouvoir d'achat lié à la stratégie des Chinois. Si effectivement les Chinois deviennent monopole à un moment donné, il y a des Indiens, des Vietnamiens qui sont tout à fait prêts à prendre le relais. Et donc le libre-échange, ça, ce n'est pas naïf. Le libre-échange, c'est du pouvoir d'achat et du pouvoir d'achat pour le consommateur. Je rappelle que l'objectif de l'économie, ce n'est pas d'accumuler la production, ce n'est pas accumuler des chiffres à la soviétique en disant « je produis telle quantité d'acier », c'est de donner du pouvoir d'achat à la population.
Je suis pour un libre-échange avec des règles qu'il faut respecter. Aujourd'hui, l'OMC est nulle, non avenue. Et d'autre part, une partie de notre excédent extérieur provient de notre déficit de croissance. Je suis désolé, il y a une partie qui tient au fait qu'on n'a pas assez de croissance, donc pas assez d'importations. Et qu'une partie de notre déficit extérieur vient de là. Quand vous comparez les performances, les sous-performances de l'Europe par rapport aujourd'hui aux performances américaines et chinoises, je répète, il faudrait analyser dans notre excédent extérieur ce qui est dû à notre déficit de croissance que Jean-Marc oublie et ce qui est dû à notre soi-disant compétitivité.
Oui, mais payer la croissance avec du déficit extérieur, comme le font les États-Unis par exemple, ça a comme conséquence que progressivement, le pays est obligé de vendre son patrimoine. C'est-à-dire ce déficit extérieur des Américains se traduit par le fait que de plus en plus le patrimoine américain est détenu par des étrangers, à tel point que quand on regarde la campagne électorale en ce moment, c'est un des arguments de Trump, c'est de dire que effectivement on est dans une situation aux États-Unis où on subventionne des entreprises européennes qui emploient des travailleurs mexicains. C'est ce qu'il dit. L'IRA, ça consiste à subventionner des entreprises détenues par des Européens et des Japonais pour faire travailler des salariés mexicains. Alors c'est un peu une caricature, mais ça correspond quand même à une certaine forme de réalité des États-Unis et je ne suis pas sûr que ce soit un modèle aussi parfait que ça.
J'ai pas mal d'auditeurs qui ont un peu de mal avec votre démonstration qui est fidèle à ce que vous nous dites régulièrement. Lionel m'écrit, oui, mais quand le consommateur n'a plus de travail, donc plus de salaire, on fait comment ?
Ah ben, le consommateur, il continue à avoir un travail et un salaire si on se spécialise dans les
activités. Ah, les avantages comparatifs.
Les avantages, que je sache, quel est le taux de chômage en Allemagne, quel est le taux de chômage dans l'Union Européenne ? Il y a des gens qui ont du travail. Et si on a un excédent extérieur, c'est parce qu'on exporte. On exporte, c'est pas uniquement parce que notre excédent extérieur, alors qu'on importe de Chine, signifie qu'on exporte également.
Je sais pas si
et donc le producteur, ouais, il a du travail parce qu'il est dans une entreprise qui exporte.
Je maintiens que l'argument du différentiel de croissance joue un rôle dans l'analyse.
Je connais l'amour de Jean-Marc pour la théorie des avantages comparatifs et l'idée que le consommateur doit être l'alpha et l'oméga et l'objectif final de bon.
Mais je disais tout à l'heure que ça oblige à penser contre soi-même, ce qui est toujours, me semble-t-il, assez sain quand même d'arriver à un moment.
Mais il m'arrive de penser contre moi-même
quand même, parce que je suis évidemment très sensible à ce que dit Jean-Marc, mais très clairement la Chine a un objectif qui est un objectif qui déjà qui va au-delà de l'économie, mais qui est un objectif de puissance. Mais eux, ils sont pas libéraux, c'est-à-dire ils sont pas libre-échangistes, c'est-à-dire avec des moyens publics. Alors malheureusement, on a du mal à les quantifier parce que c'est pas transparent. Mais avec des moyens publics pour soutenir des entreprises, pour subventionner des entreprises, qui sont des moyens publics, mais simplement déments.
Parce que, encore une fois, ces moyens publics subventionnent mon pouvoir d'achat.
Oui, mais regardez,
je vois vraiment pas pourquoi je les critique.
Oui, mais regardez.
Et quant à dire, je vais être au chômage à cause de ça. Encore une fois, grâce à nos excédents extérieurs, on a des emplois. Oui, l'Europe dégage des excédents extérieurs. Les gens qui fabriquent pour fabriquer ces exportations ont un emploi.
Les excédents extérieurs sont européens. Si on regarde nous. On n'a pas d'excédent extérieur.
Ils sont
allemands.
Parce que nous, on ne travaille pas. On a perdu notre excédent extérieur en 2002 avec les 35 heures. Ça, c'est évident.
Vous dites, Jean-Marc, que c'est le gouvernement chinois, par ses subventions, qui subventionne votre pouvoir d'achat.
Oui, le vôtre aussi, mais, et celui de l'auditeur.
D'accord. Oui, mais c'est aussi votre argent qui permet de subventionner l'achat de ces produits et donc d'enrichir aussi le producteur chinois. Puisque, effectivement, quand on s'est rendu compte qu'on avait 4 euros sur 10 qui partaient dans des voitures électriques chinoises de subventions françaises aux consommateurs français, le profiteur de cette
subvention. Ah, mais je suis d'accord pour supprimer ces subventions. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'on ces subventions que l'on donne là, effectivement, encore une fois, c'est moi qui les paie. Donc, là, je veux pas les payer. En revanche, les subventions que l'État chinois donne à ses producteurs, c'est moi qui les encaisse.
J'adore ce débat.
Donc, je suis d'accord. Et la dernière chose, encore une fois, sur laquelle j'insiste, c'est que
concrètement, nous sommes un extérieur, donc nous exportons, mais pas la France,
oui,
parce
voilà.
que la France est en déficit extérieur depuis 2002, et 2002, c'est quoi? C'est les 35 heures. Donc le problème de la France, c'est pas les Chinois, le problème de la France, c'est les 35 heures.
Bon, vous voulez un dernier mot là-dessus?
Oui, non, mais un petit mot, parce qu'en fait,
après on fait Gabriel Attal.
Je suis tout à fait prêt à suivre Jean-Marc autour de l'idée selon laquelle c'est pas parce que eux subventionnent que nous on doit subventionner en contrepartie, parce qu'en effet, tout ça est inefficace. Et en fait, Christian de Boissieu évoquait tout à l'heure la faiblesse de l'OMC, quasi inexistante oui, de l'OMC, mais en réalité, il devrait y avoir des règles, il y a un droit international, et en fait, là, c'est la faiblesse du multilatéralisme auquel on fait face en ce moment. D'une certaine façon, on manque d'accords de libre-échange, d'ailleurs, parce que les accords de libre-échange sont des accords de régulation. Quand on regarde physiquement un accord de libre-échange, ça fait 1000 pages avec énormément de notions juridiques, etc.
On a tendance à les caricaturer dans les débats.
Pour faire régler ça, et je pense aussi qu'on sous-utilise des institutions, en effet, qui existent, des institutions de contrôle qui existent, et on n'est pas obligé de passer par la subvention.
20h50 ce soir, BFM TV, émission spéciale, Gabriel Attal, l'occasion de ses 100 jours sera dans l'émission qui s'intitule Face à BFM. Il y aura des questions politiques, il y aura des questions sur la sécurité, il y aura des questions économiques. Et pour l'économie, eh ben c'est Bibi, comme dit l'autre, qui va s'y coller. Donc, je vais commencer à faire une petite architecture. Donc, vous allez me filer un coup de main. Allez, Christian, quelle question économique vous poseriez au Premier ministre ce soir sur BFM TV, à l'occasion des 100 jours?
Je lui dirais, depuis 30 ans, on a travaillé sur la maîtrise des dépenses publiques. On a travaillé, on a rassemblé des comités Théodule, on a fait des rapports.
Théodule.
Depuis
Gustave,
il y a eu la LOLF, il y a eu la RGPP, Revue Générale des Politiques Publiques, la MAP, Modélisation de l'administration publique, il y a eu le rapport CAP 22 sous Édouard Philippe, etc. Donc, on a une foultitude de rapports. Les rapports Pébro.
Oui. Sur Attali.
Bon, il y a eu des tas de rapports. Le résultat en face est quasiment inexistant. Donc, comment il compte s'y prendre, enfin, pour rendre ça effectif, pour aller vers une maîtrise des dépenses publiques qui soit effective, dans un contexte où il faut financer la transition énergétique, l'augmentation des dépenses militaires avec la loi de programmation, s'occuper légitimement, je ne sais pas, moi, prof, qui veut dire le contraire, de l'éducation, de la santé, etc. Comment il compte s'y prendre?
D'accord, mais c'est pas une vraie question. Nicolas Bouzou, si vous étiez ce soir en face de Gabriel Attal pour les 100 jours...
Le sujet que je trouve très intéressant en ce moment, c'est la façon dont se passent les rencontres de la simplification qui ont été organisées par Bercy, parce qu'il y a deux sujets. Donc, les rencontres de la simplification, en deux mots, doivent aboutir à un projet de loi qui doit être présenté assez rapidement, d'ailleurs, peut-être même la semaine prochaine en Conseil des ministres. Il y a déjà eu des fuites parce que les Échos a pu consulter le projet tel qu'il a été envoyé au Conseil d'État. Et au fond, il y a quand même deux sujets. Le premier sujet, c'est que, alors vous savez, on prend l'exemple de la fiche de paie. Donc, la fiche de paie va passer de 55 à 35 lignes,
j'ai vu,
ce qui n'est pas une simplification. Ça n'est pas une simplification.
Oui.
Non, c'est masquer la complexité.
Oui, je suis
parce
totalement
d'accord.
Parce
que rien
d'accord.
ne change
bien sûr.
Derrière.
Bien évidemment,
donc,
bien sûr.
Premièrement,
on
je m'interrogerai là-dessus.
On fusionne des
est-ce
lignes.
Qu'on, est-ce qu'on donne l'impression qu'on simplifie ou est-ce qu'on simplifie? Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, très concrètement, le passage de la fiche de paie de 55 à 35 lignes, ça ne change rien pour aucun dirigeant. Mais rien de rien de rien. Enfin, voilà,
juste réécrire le document. Ouais, mais bon.
Et deuxième, personne n'est assez taré pour lire. Moi, je fais des bulletins de paie. Enfin, bon, bref. Donc... Et le deuxième sujet, c'est à dire un peu la même chose avec la dépense publique, c'est-à-dire on peut réduire un peu le stock de normes, très bien, etc., mais comment on réduit le flux? C'est-à-dire comment on évite de faire en sorte que le lendemain des rencontres de simplification, le lendemain du vote du projet de loi sur la simplification, on ait recommencé à créer de la norme. Même problème que la dépense publique, parce que la dépense publique, on part toujours de la baisse de la dépense publique, mais on ne se pose jamais la question de savoir comment on freine l'augmentation de la dépense publique. Je vous rappelle que la semaine dernière, le président de la République a annoncé le passerail, par exemple, qui va permettre aux jeunes de voyager de façon subventionnée par l'État et par les régions. Alors, ça coûte pas très cher, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Mais enfin, voilà, quand même. Passerail, on a eu le pass culture, ma prime rénov', vous avez tous les types de passes, d'aides, etc. Les aides pour raccommoder les vêtements. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sorti de la quoi qu'il en coûtisation de l'économie.
À quoi qu'il en... Jean-Marc, la question à Gabriel Attal pour les 100 jours.
Oh, écoutez, moi, ce serait très simple. Je lui rappellerai ce que je dis assez régulièrement sur cette antenne. C'est que moi, j'aime mes enfants. Et donc je vois pas pourquoi on est en train de sacrifier leur avenir en subventionnant l'agriculture et les pesticides, en voulant mettre en place un prix plancher sur les produits agricoles, en refusant de mettre en place une taxe carbone. Grosso modo, je lui demanderai pourquoi il a abandonné toute ambition sur le plan strictement économique de lutte contre le réchauffement climatique.
Ah, vous dites toute ambition, quand même.
Ah oui, non, de toutes les décisions qui sont prises. Vous savez, c'est les
vous avez vu que tous les pays le font. Hein. Olaf Scholz vient d'enterrer des contraintes sectorielles liées au changement climatique parce que ça passe pas. Hein.
C'est pas parce qu'une connerie est partagée que ce n'est pas une connerie. Hein. Il faut être lucide. Et donc, effectivement, c'est dramatique ce qui se passe de ce côté-là. En fait, et on continue à avoir des gens qui nous expliquent que 2 euros le litre d'essence est insupportable. Pourquoi est-ce qu'il maintient ce genre de discours ?
Parce que c'est un sujet passionnel, le litre d'essence.
Oui, j'entends bien. Mais
2 euros, c'est symbolique, même si effectivement...
Il est Premier ministre, il est en charge de l'avenir de ce pays.
Alors voilà, comment rendre enfin effective la maîtrise des dépenses publiques, demanderait Christian Dieu. C'est vrai que la litanie des... Alors, c'est des Théodules, des Augustes, des...
Oui, comme vous voulez. Des comités.
Des rapports comme Pébrou ou Commission Attali, qui sont des éléments... En plus, hyper opérationnel. C'était hyper opérationnel. Bon. Quelle simplification? Comment on réduit le flux des normes, nous dit Nicolas Bouzou? Et pourquoi vous abandonnez toute ambition écologique?
Écologique, oui.
C'est bien? Bon, écoutez, j'ai 20 minutes. Hein. Je serai obligé de caser. Il faut que je sois très proche des préoccupations quotidiennes des Français. Hein. C'est le but de ce genre de... Bon, on va parler quand même de la désmicardisation qui a été le mot-clé de son discours de politique générale. 100 jours après, nada. Hein.
Mais Michelin s'en occupe. Oui. Michelin s'en occupe. C'est pas la peine qu'il se consacre à ça. Bon. Le directeur de Michelin est en train de définir la chambre idéale pour un enfant. Quelle surface.
Je peux dire un mot du rapport l'État.
Les rapports. Non. Je vais pas. Si je commence, je rentre. Non, l'union des marchés de capitaux là ce soir à 20h50.
Non,
c'est
non.
On peut pas. Là, on a fini. Question.
Bon,
mais bon,
la semaine prochaine.
Vous inquiétez pas, la prochaine fois que vous allez venir, l'Europe n'aura pas beaucoup progressé. Ça sera toujours d'actualité.
Ça fait presque 10 ans qu'on parle de l'union des marchés.
Mais en tout cas, non.
Qui est importante et sur laquelle on n'a absolument pas avancé.
Oui, et d'ailleurs, j'avais demandé à Sylvie Matera de nous l'expliquer par le menu. Ce qui m'a surpris, mais on n'a pas eu le temps de le développer, c'est qu'hier, par exemple, Christian Saint-Etienne ou Guillaume Dard étaient assez dubitatifs, pensant que ça risquait finalement de nous être préjudiciable à terme.
Je vois pas en quoi.
Mais c'est complexe, donc là, malheureusement, je suis dans le rouge.
Ça suppose que Francfort et l'Euronext s'entendent contre Londres. Oui, on a lancé l'union des marchés sans Londres, avec Londres en 2015. Maintenant, il faut la faire contre Londres.
On se retrouve demain à 9h. C'était Christian de Boissieu pour le Cercle des économistes, Nicolas Bouzou et Jean-Marc Daniel.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.